Chapitre 14. La soirée de la petite Dorrit. Arthur Clennam s'empressa de se lever et la trouva debout sur le seuil. Cette histoire devra quelquefois voir les choses avec les yeux de la petite Dorrit. Commençons donc à les emprunter pour regarder M. Clennam en ce moment. La petite Dorrit jeta un coup d'œil dans une chambre qui lui parut spacieuse et magnifiquement meublée, mais obscure. Certaines idées aristocratiques qu'elle s'était faites de Covent Garden, où il y avait des cafés célèbres, où l'on avait vu des gentlemen en habits brodés et l'épée au côté se prendre de querelles et se battre en duel, où en hiver on trouvait des fleurs à une guinée la pièce, des ananas à une guinée le livre et des petits pois à une guinée le litre, certaines idées pittoresques qu'elle s'était faites de Covent Garden, où il y avait un théâtre magnifique, où des dames et des messieurs, richement vêtus, allaient voir de beaux et merveilleux spectacles, que cette pauvre Fanny et ce pauvre oncle ne pourraient jamais voir. Certaines idées lugubres qu'elle s'était faites de Covent Garden, où se trouvaient ces sombres arcades, sous lesquelles les misérables enfants à moitié nus qu'elle rencontrait s'enfuyaient et se cachaient comme de jeunes rats, vivant de ce qui tombe des paniers à ordures, blottis les uns contre les autres pour avoir moins froid, traqués sans trêve par la police, gare à ces rats, jeunes ou vieux, messieurs les mollusques, car aussi vrai qu'il y a un dieu, ils rongent les fondations de notre édifice social et en feront tomber les toits sur nos têtes. Certaines idées confuses qu'elle s'était faites de Covent Garden, ce lieu plein de mystères dans le présent comme dans le passé, de souvenirs romanesques, d'abondance, de misère, de beauté, de laideur, des primeurs de la belle campagne et de fétides ruisseaux, tout ce pêle-mêle d'idées qu'elle s'était faites des splendeurs ou des terreurs de Covent Garden, fit paraître à la petite Dorrit la chambre d'Arthur Clennam, un peu plus obscure qu'elle ne l'était réellement, quand elle la regarda timidement de la porte. D'abord, sur la chaise devant le feu éteint, se trouvait le gentleman qu'elle venait voir et qui s'était retourné tout étonné de la trouver là. Le gentleman au teint brun, à l'air grave, qui avait un sourire si agréable, dont les manières étaient si franches, si prévenantes, et qui avec tout cela paraissait si décidé que la petite Dorrit trouvait qu'il ressemblait à Madame Clennam, avec cette différence toutefois que la dureté faisait le fond du caractère de cette dame, et la douceur celui du caractère de Clennam. En ce moment, Arthur regardait la petite Dorrit avec ce regard profond et scrutateur, devant lequel les yeux de la jeune fille s'étaient toujours baissés et se baissaient encore. « Ma pauvre enfant, vous ici à une pareille heure, à minuit !»« C'est pour cela que j'ai dit, la petite Dorrit, en ouvrant la porte, monsieur. C'était pour vous préparer à ma visite, parce que je savais bien que vous seriez surpris de me voir. »« Êtes-vous seul ?»« Non, monsieur, Maggie m'a accompagné. » Jugeant que son nom prononcé suffisait pour lui donner le droit d'entrer, Maggie quitta le palier et se présenta, la bouche élargie jusqu'aux oreilles par une grimace amicale. Mais elle ne tarda pas à supprimer cette manifestation, et sa physionomie reprit son air de stupidité fixe et solennelle. « Et moi qui ai laissé éteindre mon feu, » dit Clennam, « et vous êtes si, » il allait dire, « si légèrement vêtu, » mais il se retint pour ne pas faire allusion à la pauvreté de la jeune fille, et ajouta « Et il fait si froid !» Rapprochant de la cheminée le fauteuil qu'il venait de quitter, il y fit asseoir sa petite visiteuse, et après avoir apporté à la hâte du charbon et du bois, il les entassa dans la grille et fit flamber le feu. « Vous avez les pieds glacés, mon enfant » dit-il. Il les avait touchés par hasard, tandis qu'appuyé sur un genou, il se baissait pour allumer le feu. « Mettez-les donc devant le feu !» La petite Dorrit le remercia précipitamment. Elle n'avait pas froid aux pieds, pas froid du tout. Ce fut avec un serrement de cœur que Clennam devina qu'elle voulait lui cacher la vue de ses pauvres petits souliers tout usés. La petite Dorrit ne rougissait pas de ses pauvres souliers. Il savait son histoire, et ce n'était pas de cela qu'elle avait honte. Mais elle avait un pressentiment que Clennam en voudrait à son père s'il les voyait. Qu'il pourrait se dire, comment a-t-il eu le cœur de dîner aujourd'hui et de laisser cette petite à la merci des pavés glacés. Non pas que, selon elle, ce fût une réflexion juste et raisonnable, mais elle savait par expérience qu'il y avait quelquefois des gens assez peu raisonnables pour se permettre des remarques de ce genre. C'était un des malheurs de son père d'encourir ces injustes reproches. Avant d'aller plus loin, commença la petite Dorite, assise devant le feu, encore pâle, et levant les yeux vers le visage qui, dans son expression harmonieuse d'intérêt, de pitié et de protection, était pour elle un mystère bien au-dessus de sa condition et de son intelligence, « Puis-je vous dire quelque chose, monsieur ?»« Oui, mon enfant. » Un léger nuage assombrit les traits de la petite Dorite, comme si elle eût été peinée qu'Arthur l'appela si souvent une enfant. Mais elle s'étonna plus vite encore qu'il s'en fût aperçu et qu'il s'occupa de si peu de choses, car il ajouta de suite « J'avais besoin d'un mot qui exprimât la tendresse, et je n'en ai pas trouvé d'autre. Comme tout à l'heure, vous vous êtes donné vous-même un nom qu'on vous donne chez ma mère, celui que je vous donne toujours lorsque je pense à vous, laissez-moi vous appeler Petite Dorite. Merci, monsieur. C'est le nom que je préférerais à tous les autres. Petite Dorite. Petite mère, reprit par manière de correction Maggie qui avait commencé à s'endormir. C'est la même chose, Maggie. Tout à fait, mère. Tout à fait, Maggie. Maggie se mit à rire et elle n'avait pas fini qu'elle ronflait déjà. Aux yeux de la petite Dorite, on ne pouvait rien voir de plus amusant que ce gros poupard avec son gros rire. La petite mère était fière de son monstrueux enfant, et son visage était rayonnant lorsqu'elle le ramena vers le grave gentleman au teint bronzé. Il se demandait à quoi ils pensaient en les regardant, elle et Maggie. « Quel bon père cela ferait !» se disait-elle. Avec une figure comme cela, comme il serait doux pour sa fille de recevoir ses conseils et ses caresses. « Ce que j'allais vous dire, monsieur, dit la petite Dorite, c'est que mon frère est libre. » Arthur parut très content d'apprendre cette nouvelle. Il espérait, dit-il, que Tip allait bien se conduire. « Et ce que j'allais aussi vous dire, monsieur, continua la petite Dorite, tremblant dans tout son petit corps et jusque dans sa voix, c'est que je ne dois jamais, à ce qu'on dit, connaître celui dont la générosité a fait relâcher Tip, que je ne dois jamais demander à le connaître, que je ne dois jamais savoir son nom, que je ne dois jamais le remercier de tout mon cœur. » Clenham dit que la personne en question n'avait probablement pas besoin qu'on la remerciât, que sans doute elle se trouvait très heureuse, et avec raison, d'avoir été à même de rendre un si léger service à une jeune fille qui méritait qu'on lui en rendît de plus grand. « Et ce que j'allais dire, monsieur, poursuivit la petite Dorite, tremblant de plus en plus, c'est que si je le connaissais, et si cela m'était permis, je lui dirais qu'il ne peut jamais, jamais savoir combien je suis reconnaissante envers lui, ni combien mon bon père serait reconnaissant de son côté. Et ce que j'allais dire, monsieur, c'est que si je le reconnaissais, et si cela m'était permis, mais je ne le connais pas, et je ne dois pas le remercier, je sais cela, je lui dirais que je ne m'endormirai plus sans avoir prié le ciel de le bénir et de le récompenser. Je me mettrais à genoux et je prendrais sa main et je l'embrasserais en le priant de ne pas la retirer et de la laisser, oh, rien qu'un instant, afin d'y sentir mes larmes reconnaissantes, car je n'ai pas d'autre remerciement à lui offrir. » La petite Dorite avait porté la main de Clenham à ses lèvres et aurait voulu se mettre à genoux devant lui. Mais il la retint doucement et la fit rasseoir. Elle n'avait pas besoin de cela, d'ailleurs, ses yeux et le ton de sa voix avaient remercié bien mieux son bienfaiteur qu'elle ne pouvait croire, aussi n'était-il plus tout à fait aussi calme qu'à l'ordinaire quand il lui dit « Là, petite Dorite, là, voyons, eh bien, nous supposerons que vous connaissez cette personne, que vous avez pu faire tout cela et que vous l'avez fait. Et maintenant, dites-moi, à moi qui ne suis pas du tout cette personne-là, qui ne suis que l'ami qui vous a prié d'avoir confiance en lui, pourquoi vous êtes dehors à minuit, et ce qui vous amène si loin de chez vous à cette heure tardive, ma frêle et délicate, enfant était encore sur le bout de sa langue, petite Dorite. Maggie et moi, répondit-elle, se calmant avec ce paisible effort qui lui était depuis longtemps naturel, nous sommes allés ce soir au théâtre où ma sœur est engagée. « Oh, n'est-ce pas que c'est un endroit céleste ?» interrompit brusquement Maggie, qui semblait avoir la faculté de se réveiller et de se rendormir à volonté. « Presque aussi beau qu'un hôpital. Seulement, On ne vous y donne pas du poulet. » Elle se secoua comme un caniche qui sort de l'eau et se rendormit. « Nous y sommes allés, » continua la petite Dorite, jetant un coup d'œil sur sa protégée, « parce que je ne suis pas fâchée de voir quelquefois par moi-même ce que fait ma sœur. Et j'aime à la regarder sans qu'elle, ni mon oncle sans doute. Je ne puis pas me donner ce plaisir-là bien souvent, parce que, lorsque je ne travaille pas, je suis avec mon père, et même lorsque je vais en journée, je me dépêche d'aller le rejoindre. Mais ce soir, j'ai fait semblant d'aller en soirée. » En faisant cet aveu, avec une hésitation timide, elle leva les yeux vers le visage de Glenham, dont elle lut si clairement l'expression qu'elle y répondit « Oh non, certainement, je ne suis jamais allée à une soirée. » Elle s'arrêta un instant, en voyant que Glenham la regardait toujours, puis ajouta « J'espère qu'il n'y a pas de mal à cela. Je n'aurais jamais pu me rendre utile si je n'avais pas un peu dissimulé. » Elle craignait qu'il ne la blâmât intérieurement de tromper ainsi ses parents pour leur rendre service, pour songer à eux, pour veiller sur eux à leur insu et sans pouvoir compter sur leur reconnaissance, qui sait même, peut-être, en encourant de leur part, le reproche de négligence. Mais Clenham songeait au contraire à ce frêle petit corps, animé d'une volonté si forte, à ses souliers usés, à ses vêtements insuffisants, à cette feinte délicatesse de récréation et d'amusement. Il demanda où se donnait la soirée supposée. « Chez les personnes pour qui elle travaillait, » répondit la petite Dorite en rougissant. Elle n'en avait dit que fort peu de choses, seulement quelques mots, pour tranquilliser son père, qui savait bien, dans tous les cas, que ce ne pouvait pas être une grande soirée, comme M. Clenham devait bien le penser. Et elle jeta un coup d'œil sur le châle qu'elle portait. « C'est la première nuit, » dit la petite Dorite, « que je me sois jamais absentée de la maison. Dieu, que Londres a l'air grand, sombre et sauvage la nuit. » Aux yeux de la petite Dorite, la vaste étendue de la ville avait quelque chose qui lui faisait peur avec son ciel noir. Elle frissonna en prononçant ces paroles. « Mais ce n'est pas pour cela, » continua-t-elle en faisant de nouveau un pénible effort pour se remettre, « que je suis venue vous déranger. » Le principal motif qui m'a engagé à sortir, c'est que ma sœur a fait une amie, une dame dont elle m'a parlé de manière à m'inquiéter un peu. Alors je suis sorti et j'ai passé exprès du côté où vous demeurez, puis en voyant une lumière à la croisée. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait vu cette lumière. Oh non, ce n'était pas la première fois. Les yeux de la petite Dorite avaient déjà souvent regardé, le soir, cette fenêtre brillait de loin comme une étoile. Elle s'était souvent écartée de son chemin, harassée et fatiguée, pour venir la regarder et rêver au monsieur à l'air grave et au teint bronzé qui venait de si loin et qui lui avait parlé en ami et en protecteur. « Il y avait trois choses, » dit la petite Dorite, « qu'il me semblait que je voulais vous dire, si vous étiez seule et que je pusse monter pour vous voir. D'abord, ce que j'ai essayé de vous exprimer, mais je ne dois jamais, et que je ne pourrai jamais. Chut, chut, c'est une affaire terminée. Passons à la seconde, » répondit Clenham, dissipant par son sourire l'agitation de la jeune fille, faisant briller sur elle la flamme du foyer et posant sur la table du vin, des gâteaux et des fruits. « Je crois, » poursuivit la petite Dorite, « que voici la seconde chose, monsieur. Je suppose que Madame Clenham aura découvert mon secret et qu'elle sait d'où je viens et où je vais, où je demeure, en un mot. « En vérité, » répliqua Clenham avec vivacité. Et après un moment de réflexion, il lui demanda ce qui lui faisait penser cela. « Je crois, » répondit la petite Dorite, « qu'il faut que M. Flintwinch m'ait suivi. » « Et pourquoi ?» demanda Clenham, qui tourna les yeux vers le feu, fronça les sourcils et réfléchit encore. « Pourquoi le croyez-vous ? » Je l'ai rencontré deux fois, toujours près de la maison, toujours le soir lorsque je rentrais. Et chaque fois j'ai cru, à moins que je ne me sois trompé, qu'il n'avait pas l'air de m'y rencontrer par hasard. Vous a-t-il parlé ? Non, il m'a fait un petit salut et a penché la tête de côté. Le diable emporte sa tête, dit Clenham d'un ton rêveur, et les yeux toujours fixés sur le feu, elle est toujours penchée d'un côté. il secoua sa rêverie pour persuader à la petite Dorit de prendre un peu de vin et de manger quelque chose. Il eut beaucoup de peine, elle était si timide. Puis il reprit, toujours d'un ton rêveur, « Est-ce que ma mère n'est plus la même avec vous ?»« Oh, je vous demande pardon, elle est toujours la même. Cependant, je me demandais si je ne ferais pas bien de lui raconter mon histoire. Je me demandais si je pouvais, je veux dire, si vous désiriez que je lui en fisse confidence. » Je me demandais, dit la petite Dorit, le regardant d'un air suppliant et baissant peu à peu les yeux tandis qu'il levait les siens, si vous ne voudriez pas me donner un conseil sur ce que je dois faire. Petite Dorit, répondit Clennam, et ces deux mots avaient déjà commencé à remplacer pour eux deux une foule de tendres expressions, selon leur intonation ou la place qu'ils occupaient dans la conversation. Ne faites rien. Je veux causer un peu avec ma vieille amie, Madame Affray Flintwinch. Ne faites rien, petite Dorit, si ce n'est de vous rafraîchir avec ce petit souper. Voilà tout ce que je vous conseille, ce que je vous prie de faire. Merci, je n'ai pas faim, ni soif, ajouta la petite Dorit, tandis qu'il plaçait doucement un verre devant elle. Mais je crois que Maggie ne serait peut-être pas fâchée de prendre quelque chose. Nous lui ferons trouver de la place dans ses poches tout à l'heure pour y mettre tout ce qu'il y a là, dit Clennam. Mais avant de la réveiller, je vous rappellerai que vous aviez une troisième chose à me dire. Oui, vous ne vous fâcherez pas, monsieur. Je vous le promets, sans condition. Cela va vous paraître si étrange. Je ne sais pas trop comment vous le dire. N'allez pas me croire déraisonnable ou ingrate, dit la petite Dorit, dont l'agitation recommençait de plus belle. Non, 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 je suis sûr que vous ne direz rien que de fort naturel et de fort juste. Je n'ai pas peur de mal interpréter votre pensée, quelle qu'elle soit. Merci. Vous avez l'intention de retourner voir mon père? Oui. Vous avez eu la bonté et l'obligeance de lui écrire un mot pour lui annoncer que vous viendriez le voir demain. Oh, si ce n'est que ça, oui. Pouvez-vous deviner, continua la petite Dorit, les mains jointes et pressées, fixant sur Clennam des yeux où brillait l'ardeur d'une supplication muette, ce que je vais vous prier de ne pas faire? Je crois que oui, mais je puis me tromper. Non, vous ne vous trompez pas, répliqua la petite Dorit, secouant la tête. Si nous venons à en avoir tant, tant besoin, que nous ne puissions pas nous en passer, laissez-moi vous en demander. Je vous le promets, je vous le promets. Ne l'encouragez pas à vous en demander. N'ayez pas l'air de comprendre s'il vous le demande. Ne lui en donnez pas. Épargnez-lui cette honte, et vous pourrez alors le juger plus favorablement. Clennam répondit, pas très distinctement, car il voyait des larmes dans les yeux inquiets de la jeune fille, que son désir serait sacré pour lui. « Vous ne connaissez pas mon père, dit-elle. Vous ne le comprenez pas. Comment le comprendriez-vous, le voyant tout à coup tel qu'il est devenu, pauvre cher père, au lieu de voir, comme moi, les degrés successifs par lesquels il y est arrivé petit à petit. Vous avez été si bon pour nous, vous y avez mis tant de délicatesse et de bonté, que je voudrais que vous eussiez bonne opinion de lui. Je tiens à votre opinion plus qu'à celle de tous les autres, et je souffre de penser que vous, vous ne l'aurez vu que dans l'état de dégradation où il peut être. « Allons, dit Clennam, ne vous chagrinez pas ainsi. Allons, allons, ma petite Dorit, tout cela est parfaitement entendu. » « Merci, monsieur, merci. J'ai fait de grands efforts pour m'empêcher de vous le dire, mais j'y ai pensé nuit et jour. Et lorsque j'ai su que vous aviez promis de venir demain, je me suis décidé à vous parler. Non que je rougisse de lui, elle se hâta d'essuyer ses yeux, mais parce que je le connais mieux que personne, au contraire. » C'est parce que je l'aime et que je suis fier de lui. » Soulagée de ce fardeau moral, la petite Dorit commença à être un peu agitée et à s'inquiéter de l'heure. Maggie étant parfaitement réveillée et occupée à dévorer des yeux à distance, avec une jouissance anticipée, les fruits et les gâteaux, Clennam chercha à calmer de son mieux la petite mère en versant du vin à la grosse enfant. Maggie le but avec une série de claquements de langue assez bruyants, après chacun desquels elle posait la main sur son gosier et disait, d'une voix essoufflée et les yeux plus arrondis que jamais. « Oh, comme c'est délicieux! Comme ça ressemble à l'hôpital !» Lorsqu'elle eut achevé le vin et ses éloges, Clennam l'engagea à charger son panier, Maggie ne marchait jamais sans son panier, de tous les comestibles qui se trouvaient sur la table, en lui recommandant d'avoir bien soin de ne rien laisser. Le plaisir avec lequel Maggie exécuta cet ordre, et le plaisir que la petite mère prenait à voir son bonheur, étaient bien la digne clôture d'une si douce entrevue. « Mais la grille est fermée depuis longtemps !» s'écria Clennam, se rappelant tout à coup ce fait. « Où donc irez-vous ? » « Je vais chez Maggie, » répondit la petite Dorrit. « J'y serai très bien gardée et très bien soignée. » « Il faut que je vous accompagne jusque-là, » dit Clennam. « Je ne puis vous laisser aller seule. » « Si, je vous prie de nous laisser partir seuls. Je vous en prie, » répliqua la petite Dorrit d'un ton suppliant. Elle avait mis tant d'ardeur à formuler sa pétition que Clennam sentit que ce serait manquer de délicatesse que d'insister davantage. D'autant plus qu'il comprenait très bien que la demeure de Maggie ne devait pas être des plus brillantes. « Allons, Maggie, » fit gaiement la petite Dorrit, « nous nous en tirerons bien. »« Nous savons le chemin maintenant, n'est-ce pas, Maggie ?»« Oui, oui, petite mère, nous savons le chemin, » dit Maggie en ricanant. Et les voilà partis. La petite Dorrit, arrivée près de la porte, se retourna pour dire « Que Dieu vous bénisse !» Elle prononça ces paroles très bas, mais peut-être les entendit-on là-haut aussi bien, qui sait, mieux encore que si elles eussent été psalmodiées en chœur par tous les chantres d'une cathédrale. Arthur Clennam attendit qu'elles eussent tourné le coin de la rue avant de les suivre à distance. Non qu'il eût la moindre idée d'éprouver une seconde fois la petite Dorrit, mais pour être certain qu'elle avait gagné saine et sauve le quartier auquel elle était habituée. Elle semblait si petite, si frêle et si mal abritée par ses vêtements contre ce temps froid et humide, qu'en la voyant disparaître sous l'ombre pesante de sa protégée, plein de pitié pour elle et habitué à la séparer dans sa pensée des autres grossiers habitants de ce monde et à la regarder comme une enfant, il aurait eu plaisir à la prendre dans ses bras pour la porter jusqu'au bout de son voyage. Enfin, elles arrivèrent dans la grande rue où se trouvait la prison de la Maréchaussée, puis il leur vit ralentir le pas avant d'entrer dans une petite rue de traverse. Il s'arrêta, sentant qu'il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Il ne se doutait guère qu'elle courait le risque de se trouver sans abri jusqu'au jour. Il n'apprit la vérité que beaucoup, beaucoup plus tard. Cependant, la petite Dorrit, lorsqu'elles s'arrêtèrent devant une pauvre maison où l'on ne voyait briller aucune lumière, et qu'elles n'entendirent aucun bruit en écoutant à la porte, dit à sa protégée « Ah ça, Maggie, tu es très bien logée, là, et il ne faut pas fâcher les propriétaires. Ainsi, nous ne frapperons que deux fois, et pas trop fort. Et si nous ne pouvons pas les réveiller, nous nous promènerons jusqu'au jour. » Une fois, la petite Dorrit frappa d'une main légère et écouta. Deux fois, la petite Dorrit frappa d'une main non moins légère et écouta encore. Rien ne bougea. Aucun bruit ne se fit entendre. « Maggie, il faut faire de notre mieux, ma chère. Il nous faut patienter et attendre le jour. » La nuit était sombre et froide, le vent humide soufflait avec violence, et lorsqu'elles regagnèrent la grande rue, les horloges voisines sonnaient 1h30. « Nous ne pourrons rentrer à la maison que dans 5h30, » dit la petite Dorrit. En parlant de la maison, il était bien naturel d'aller la regarder encore pendant qu'elles en étaient si près. Elles se rapprochèrent donc de la grille fermée et regardèrent dans la cour. « J'espère qu'il dort trop bien, » dit la petite Dorrit, baissant un des barreaux, « pour s'inquiéter de mon absence. » La grille leur était si familière que c'était pour elle comme une vieille connaissance. Elles déposèrent là, dans un coin, le panier de Maggie pour leur servir de siège et se tinrent tout près l'une de l'autre pour prendre un peu de repos. Lorsque la rue était déserte et silencieuse, la petite Dorrit n'avait pas peur. Mais lorsqu'elle entendait résonner un pas dans le lointain, ou qu'elle voyait une ombre se mouvoir sous les réverbères, elle tressaillait et murmurait à l'oreille de sa protégée « Maggie, j'aperçois quelqu'un, allons-nous-en. » Alors Maggie se levait avec plus ou moins de mauvaise humeur et elle se promenait un peu au hasard pour reprendre bientôt leur première position. Tant que Maggie ne se fatigua pas du plaisir de manger, elle se conduisit assez bien. Mais tout passe, et alors elle commença à se plaindre du froid, à frissonner, à pleurnicher. « Ce sera bientôt passé, ma chère Maggie, » disait la patiente petite Dorit. « Oh oui, bientôt passé pour vous, petite mère, c'est possible, » répondit Maggie. « Mais moi, je ne suis qu'une pauvre enfant, et je n'ai que 10 ans, moi. » Enfin, au plus profond de la nuit, lorsque la rue était très tranquille, la petite Dorit posa la lourde tête de Maggie sur ses genoux, l'endormit à force de caresses. Et c'est ainsi qu'elle s'assit contre la grille, seule pour ainsi dire, regardant les étoiles et suivant des yeux les nuages qui passaient par devant les étoiles dans leur course rapide et capricieuse. Voilà toute la danse condensa à la soirée de la petite Dorit. Si c'était vraiment une soirée, se dit-elle un moment assise sur son panier, s'il faisait clair et chaud, un beau temps dans la maison de mon pauvre cher père, et qu'il n'eût jamais été emprisonné derrière cette grille. Et si M. Clennam venait nous visiter pour danser avec nous au son d'une ravissante musique, et que nous fussions tous gais et contents, je voudrais bien savoir alors si... Elle eût voulu savoir tant de choses qu'elle resta à regarder les étoiles dans un rêve confus, jusqu'au moment où Maggie commença de nouveau à se plaindre et demanda à se lever pour marcher. 3 heures, 3 heures et demie. Elles avaient traversé London Bridge. Elles avaient entendu le courant se précipiter en grondant contre les obstacles. Elles avaient regardé au-dessous d'elles, tout effrayées, la rivière sur laquelle planait une sombre vapeur. Elles avaient vu dans l'eau de petites places éclairées où tremblait le reflet des réverbères du pont, brillant comme les yeux d'un démon qui cherche à fasciner le crime et la misère. Elles avaient reculé devant des gens sans abri, roulés sur eux-mêmes dans des coins obscurs. Elles s'étaient enfuies devant des ivrognes. Elles s'étaient éloignées avec un effroi caché des rôdeurs furtifs qui sifflaient ou se faisaient des signes d'un coin de rue à l'autre ou qui se sauvaient en courant. Dissimulant alors son rôle de guide et de maman, la petite Dorit, heureuse cette fois de la petitesse de sa taille, feignit de s'accrocher à Maggie comme à sa protectrice. Et plus d'une fois, une voix sortie d'un groupe de querelleurs ou de rôdeurs nocturnes qu'elle rencontrait sur leur route avait crié aux autres « Laissez passer la femme et l'enfant !» De sorte que la femme et l'enfant avaient pu passer et continuer leur chemin lorsque 5 heures avaient sonné au beffroi des églises. Elles se dirigeaient lentement vers l'ouest, cherchant déjà au ciel la première lueur du jour, lorsqu'une femme arriva derrière elle. « Que faites-vous là avec cet enfant ? » demanda-t-elle à Maggie. Cette femme était jeune, beaucoup trop jeune pour se trouver là, Dieu sait, et elle n'était pas laide. Elle n'avait pas l'air méchant, il y avait de la rudesse dans sa voix, mais on voyait que ce n'était pas son expression naturelle, car le timbre n'en était pas sans harmonie. « Que faites-vous là vous-même ? » riposta Maggie, faute d'une meilleure réponse. « Ne le voyez-vous pas sans qu'on vous le dise ?»« Non, je ne vois pas, » dit Maggie. « Je vais me tuer. Maintenant, je vous ai répondu, répondez-moi. Que faites-vous là avec cet enfant ?» L'enfant supposé continua à baisser la tête et à se tenir aussi près que possible de Maggie. « Pauvre petite, » poursuivit la femme, « vous n'avez donc pas de cœur que vous la promenez à une pareille heure dans les rues glacées ? Vous n'avez donc pas Dieu que vous ne voyez pas comme elle est frêle et délicate ? Vous n'avez donc pas de bon sens ? Et on le voit, du reste, que vous n'avez pas plus de pitié que cela de cette pauvre petite main froide et tremblante. » Elle avait passé de l'autre côté pour prendre cette main dans les siennes et pour chercher à la réchauffer. « Embrassez une pauvre créature perdue, chère petite, » dit-elle en se baissant pour la prendre, « et dites-moi où vous voulez qu'elle vous porte. » La petite Dorit leva la tête et la regarda. « Ah, mon Dieu !» s'écria la femme en se reculant. « Vous n'êtes pas une enfant. »« N'importe, » répondit la petite Dorit, serrant une des mains qui avait tout à coup lâché la sienne. « Je n'ai pas peur de vous. »« Vous ferez bien d'avoir peur de moi, » répliqua l'autre. « N'avez-vous pas de mère ?»« Non. »« Pas de père ?»« Si, un père que j'aime bien. »« Alors retournez vers lui et ayez peur de moi. »« Laissez-moi partir. Bonsoir. »« Il faut que je vous remercie d'abord. » « Laissez-moi vous parler comme si j'étais une enfant. »« Vous ne le pouvez pas. vous êtes bonne et innocente, mais vous ne pouvez pas me regarder avec des yeux d'enfant. Je n'aurais jamais osé vous toucher si je n'avais pas cru que vous étiez une enfant. » Et elle s'éloigna en poussant un cri étrange et sauvage. Le jour ne se montrait pas encore dans le ciel, mais pourtant c'était déjà le jour, car le pavé des rues devenait sonore, les fourgons, les charrettes et les voitures se pressaient à la file. Les ouvriers se rendaient par groupes à leurs divers ateliers, les boutiques s'ouvraient, les marchés hurlaient, les bords de la Tamise commençaient à se mouvoir. On croyait bien que c'était le jour, car la lueur des flambeaux pâlissait. L'air devenait plus froid et plus glacial. La nuit sinistre expirait. Elles retournèrent vers la grille, avec l'intention d'attendre l'heure où on viendrait l'ouvrir. Mais le froid devenait si vif que la petite Dorit emmena encore Maggie, qui dormait tout debout, pour la tenir en mouvement. En passant auprès de l'église, elle vit que la porte était ouverte et qu'il y avait des lumières. Elle monta les degrés et regarda à l'intérieur. « Qui est là ?» cria un grand et robuste gaillard qui mettait son bonnet de nuit, comme s'il se préparait à aller se coucher dans un des caveaux de l'église. « Oh, personne, monsieur !» répondit la petite Dorit. « Arrêtez !» s'écria le vieillard, « que je vous regarde un peu !» Elle se retourna au lieu de continuer à descendre les marches et se présenta avec sa protégée. « Parbleu, je m'en doutais, je vous connais !»« Nous nous sommes vus bien souvent, » dit la petite Dorit, reconnaissant le sacristain, ou le bedeau, ou le porte-verge, ou quelques fonctionnaires de ce genre, depuis que je viens à votre église. « Bien mieux que ça, vous êtes inscrite sur nos registres, vous savez. Vous êtes une de nos curiosités. »« Vraiment ?» dit la petite Dorit. « Certainement. Comme l'enfant de la... À propos, comment vous trouvez-vous dehors de si bonne heure ?»« Nous n'avons pas pu rentrer hier soir, et nous attendons qu'on ouvre les portes. »« Ah, bah ! Mais vous avez encore au moins une bonne heure à attendre. »« Entrez dans ma sacristie. J'y ai fait un bon feu à cause des peintres. » « J'attends les peintres. Ou vous ne m'auriez pas attrapé ici, je vous en réponds. Il ne faut pas que nous laissions enrhumer une de nos curiosités quand nous pouvons la réchauffer et la mettre à couvert. Allons, venez !» C'était un brave homme, après tout, avec son air sans gêne. Après avoir remué le feu de la sacristie, il chercha autour de lui, sur les rayons destinés au registre de la paroisse, un certain volume. « Tenez, vous voilà, » dit-il. Descendant le volume et tournant les feuillets, vous vous retrouverez là-dedans. Amy, fille de William et de Fanny Dorit, née prison de la Maréchaussée, paroisse de Saint-Georges. Et nous racontons aux gens que vous y avez vécu depuis, sans vous absenter seulement 24 heures. N'est-ce pas vrai ? C'était encore vrai hier au soir. Bah ! Le coup d'œil admirateur avec lequel il la contempla lui suggéra une autre idée. « Mais je suis fâché de vous voir si faible et si fatigué. Attendez un instant. Je vais prendre des coussins dans l'église, et vous et votre ami, vous pourrez vous coucher devant le feu. N'ayez pas peur de manquer votre père lorsqu'on ouvrira les portes. Je vous appellerai. » Il ne tarda pas à apporter les coussins et les étendit par terre. « Voilà notre affaire. Oh, ne vous donnez pas la peine de me remercier, j'ai des filles aussi. » Et quoiqu'elles ne soient pas nées dans la prison de la Maréchaussée, elles auraient pu y naître si elles avaient eu un père dans le genre du vôtre. Attendez un peu. Il faut que je vous mette quelque chose pour relever le coussin qui est sous votre tête. Ah, voilà le registre des décès, c'est justement notre affaire. C'est dans ce volume-là qu'est Madame Baum. Mais ce qui donne de l'intérêt à un volume comme celui-là, aux yeux de la plupart des gens, ce n'est pas de savoir quels sont ceux qui s'y trouvent, voyez-vous, c'est de savoir ceux qui ne s'y trouvent pas, ceux qui vont y entrer, vous savez, et à quelle époque. Voilà la question intéressante. Se retournant pour contempler d'un œil satisfait son oreiller improvisé, il les laissa se reposer. Maggie ronflait déjà, et la petite Dorit ne tarda pas à s'endormir d'un sommeil profond, la tête sur le livre du destin, sans s'inquiéter le moins du monde, des feuillets blancs qui restaient à remplir dans le volume. Ainsi se passa la soirée de la petite Dorit, dans la honte, l'abandon, la misère et les dangers de la grande métropole, au milieu de l'humidité, du froid, des heures lentes et des rapides nuages de la nuit lugubre. Ainsi se passa la soirée dont la petite Dorit revint tout épuisée de fatigue au premier brouillard grisâtre d'une matinée pluvieuse. Chapitre 15. Madame Jérémie Flintwinch fait un autre rêve. La vieille maison décrépite de la cité, enveloppée dans son manteau de suie et pesamment appuyée sur les béquilles qui s'étaient détériorées et avaient vieilli avec elle, ne jouissait jamais d'un moment de bonne santé ou de bonne humeur, quoi qu'il arrivât. Si le soleil la visitait par hasard, ce n'était qu'avec un faible rayon qui disparaissait au bout d'une demi-heure. Si la lune venait à l'éclairer, ce n'était que pour mettre quelques pièces au lugubre manteau qui enveloppait cette demeure et la faire paraître encore plus sombre. Les étoiles seulement la surveillaient froidement lorsque le ciel était assez clair et la fumée peu épaisse. Mais, par exemple, le mauvais temps l'affectionnait avec une rare fidélité. La pluie, la grêle, la gelée et le dégel duraient encore dans cette morne enceinte lorsqu'ils avaient cessé partout ailleurs. Quant à la neige, on la retrouvait là pendant des semaines lorsqu'elle avait depuis longtemps tourné du jaune au noir, terminant lentement dans les pleurs sa sale carrière. Quant au bruit du dehors, le roulement des voitures dans la rue ne faisait que s'élancer en passant dans la maison et ressortait de même. De façon que Madame Jérémie pouvait se croire atteinte de surdité et ne recouvrait le sens de l'ouïe que par éclairs momentanés. Il en était de même de la voix des passants qui sifflaient, chantaient, causaient, riaient ou de tout autre bruit agréable et humain. Ces sons passaient comme en courant, sans jamais s'arrêter en route. L'éclat variable du feu et de la chandelle qui brûlait sans cesse dans la chambre de Madame Clenham était le seul changement qui vint jamais rompre la sombre monotonie de cette demeure. Jour et nuit, le feu éclairait tristement ces deux étroites et longues fenêtres. Dans quelques rares occasions, la flamme irritée s'élevait brusquement, comme les rapides colères de Madame Clenham. Mais le plus souvent, elle restait étouffée, toujours comme chez Madame Clenham, et se consumait tout doucement avec uniformité. Néanmoins, pendant une partie des courtes journées d'hiver, lorsqu'il faisait sombre dès le commencement de l'après-midi, des images difformes de Madame Clenham dans son fauteuil à roulettes, de M. Jérémie Flintwinch avec son col tort, de Madame Jérémie allant et venant, apparaissaient comme les ombres d'une vaste lanterne magique sur le mur qui s'élevait au-dessus de la porte cochère. Lorsque la paralytique s'était retirée pour la nuit, ces ombres disparaissaient l'une après l'autre. L'image amplifiée de Madame Jérémie restait toujours la dernière et s'éclipsait tout à coup comme si elle venait de partir pour le sabbat. Alors la lumière solitaire brûlait paisiblement jusqu'à ce que l'aube vînt la faire pâlir et mourait enfin, soufflée par Madame Jérémie, dès que l'ombre de cette dame se montrait de nouveau au sortir des régions féeriques du sommeil. Qui sait pourtant si ce feu, qui éclairait si faiblement la chambre de la malade, n'était pas en effet un phare qui attirait quelqu'un, quelqu'un peut-être qui ne s'attendait guère à venir là, vers l'endroit où l'appelait la fatalité. Qui sait si cette lumière, qui brillait si faiblement, n'était pas en effet un signal qui devait éclairer cette chambre, chaque nuit, jusqu'à l'accomplissement de quelque événement prédestiné. Parmi cette vaste multitude d'êtres qui voyagent en ce moment à la clarté du soleil et des étoiles, qui grimpent le long des coteaux poudreux et traversent d'un pied fatigué des plaines interminables, qui s'avancent par terre ou par mer, allant et venant d'une manière si bizarre, afin de se rencontrer, d'agir et de réagir les uns sur les autres, quel est celui qui, sans soupçonner encore le but de son voyage, se dirige vers cette demeure inévitable? Le temps nous l'apprendra. Honneur et opprobre, bâton de maréchal et baguette de tambour, statue de père dans l'abbaye de Westminster ou hamac de simple matelot sur l'océan, la mitre et l'asile des pauvres, le siège de président de la chambre des pairs ou la potence, le trône et la guillotine, tous ceux qui voyagent vers ces buts différents sont déjà en marche sur la grande route du monde. Mais cette route a de merveilleuses divergences et le temps seul pourra nous faire connaître où va chacun. Par une froide soirée, vers l'heure du crépuscule, Madame Jérémie, s'étant sentie l'esprit un peu lourd pendant toute la journée, vit le rêve suivant. Elle rêva qu'elle se trouvait dans la cuisine à faire chauffer de l'eau pour le thé et que, par la même occasion, elle se chauffait elle-même les pieds sur le garde-cendre et la jupe de sa robe relevée devant le feu qui venait de s'affaisser dans le milieu de la grille, bornée de chaque côté par un profond ravin noir. Elle rêva que, tandis qu'elle était ainsi assise, se demandant si, pour certaines gens, l'existence n'était pas une invention assez maussade, elle fut effrayée par un bruit subtil qu'elle entendait derrière elle. Elle rêva que la semaine passée, un bruit pareil lui avait déjà causé une frayeur semblable, et que ce bruit était d'une nature mystérieuse, qu'il ressemblait à un frôlement, accompagné de 3 ou 4 coups, pareils à des pas rapides, tandis qu'un choc ou un tremblement se communiquait à son cœur, comme si ses pas eussent fait trembler le parquet. Elle se figura même qu'elle avait été touchée par quelque main effrayante. Madame Jérémie rêva que ce rêve avait ravivé chez elle certaines terreurs déjà anciennes qui lui faisaient croire que la maison était hantée, et qu'elle avait remonté 4 à 4 l'escalier de la cuisine, sans savoir comment, afin de se rapprocher d'une société humaine. Madame Jérémie rêva qu'en arrivant dans l'antichambre, elle avait trouvé la porte du bureau de son seigneur et maître toute grande ouverte et la chambre vide, qu'elle s'était approchée de l'étroite croisée qui éclairait le petit cabinet situé près de la porte d'entrée, afin de calmer les battements de son cœur en se mettant en communication, à travers cette fenêtre, avec des êtres vivant au-delà et en dehors de la maison ensorcelée. Qu'alors elle avait vu, sur le mur, au-dessus de la porte cochère, les ombres des 2 finauds qui causaient en haut. Qu'elle avait alors monté l'escalier, ses souliers à la main, en partie pour se rapprocher de ces créatures malignes qui valaient bien à elles deux tous les revenants possibles, en partie aussi pour entendre ce qu'elles disaient. « Allons, pas de ces bêtises-là avec moi !» s'écriait M. Jérémie Flintwinch. « Je ne le souffrirai pas !» Madame Jérémie rêva qu'elle se tenait derrière la porte entr'ouverte et qu'elle entendait son mari prononcer très distinctement ces audacieuses paroles. « Jérémie, répliqua Madame Clennam de sa voix forte et caverneuse, la colère qui vous possède est un démon furieux. Prenez-y garde. Que ce soit un démon ou une douzaine de démons qui me possèdent, peu m'importe, riposta Jérémie, dont le ton annonçait clairement qu'il y en avait plutôt une douzaine. S'il y en avait 50, ils diraient tous « Pas de ces bêtises-là avec moi, je ne le souffrirai pas. » Et s'ils ne voulaient pas le dire, je les y forcerai. Qu'ai-je donc fait, homme irritable ? Demanda la voix caverneuse. Ce que vous avez fait, vous êtes tombé sur moi. Si vous entendez par là que je vous ai adressé des remontrances, ne me mettez pas dans la bouche des mots dont je ne me suis pas servi, interrompit M. Flintwinch, maintenant son expression figurée, avec une obstination tenace et impénétrable. « Vous êtes tombé sur moi, voilà ce que je veux dire. » « Je vous ai adressé des remontrances, » recommença Madame Clennam, « parce que... »« Je ne veux pas de ça !» s'écria Jérémie. « Vous êtes tombé sur moi. »« Je suis tombé sur vous, alors, homme obstiné que vous êtes. » Jérémie ricana de l'avoir obligé à adopter sa phrase, « parce que vous n'aviez pas besoin, ce matin, d'être si indiscret avec Arthur. J'ai le droit de m'en plaindre. » C'est presque un abus de confiance. Vous n'aviez donc pas réfléchi ? Je ne veux pas de ça, interrompit de nouveau Jérémie, repoussant cette concession. J'avais mûrement réfléchi. Je vois qu'il faut que je vous laisse parler tout seul, si cela vous plaît, répliqua Madame Clennam après un silence irrité. Il est inutile d'adresser la parole à un vieillard inconsidéré et opiniâtre qui est décidé à ne rien écouter. « Eh bien, je ne veux pas de ça non plus, » répliqua Jérémie. « Je ne suis nullement décidé à ne pas vous écouter. Je vous ai dit que j'avais réfléchi. Voulez-vous savoir pourquoi j'ai parlé comme je l'ai fait, sans avoir pour cela manqué de réflexion, vieille femme inconsidérée et opiniâtre ? Après tout, vous ne faites que me renvoyer mes propres paroles, » répondit Madame Clennam, s'efforçant de contenir son indignation. « Oui, je vous écoute. » « Voici pourquoi, alors. Parce que vous n'aviez pas disculpé son père à ses yeux et que vous auriez dû le faire. parce que, avant de vous monter la tête à propos de vous-même qui êtes... » Arrêtez, Flintwinch, s'écria Madame Clennam d'un ton plus sévère, vous pourriez aller trop loin. Le vieillard parut être du même avis. Il y eut un nouveau silence, et il avait changé de place lorsqu'il reprit plus doucement. J'allais vous dire pourquoi. Parce que, avant de prendre votre propre défense, vous auriez dû prendre celle du père d'Arthur. Le père d'Arthur. Je ne l'aimais pas autrement, le père d'Arthur. J'ai servi l'oncle du père d'Arthur dans cette maison, lorsque le père d'Arthur n'occupait pas ici une position beaucoup plus élevée que la mienne, lorsqu'il était plus pauvre que moi en argent de poche, et lorsque son oncle aurait tout aussi bien pu me choisir pour son héritier. Tandis qu'il mourait de faim dans la salle à manger et moi dans la cuisine, il n'y avait guère d'autre différence dans nos positions respectives. Il n'y avait guère qu'un petit casse-cou d'escalier entre lui et moi. Je ne me suis jamais attaché à lui dans ce temps-là. Je ne crois pas m'être attaché à lui à aucune époque. C'était un individu faible et irrésolu qui avait, dès son enfance orpheline, tout juste ce qu'il faut de force et de courage pour vivoter. Et lorsqu'il vous a ramené ici, vous, l'épouse que son oncle lui avait choisie, je n'ai pas eu besoin de vous regarder deux fois, vous étiez une belle femme dans ce temps-là, pour deviner qui de vous deux serait le maître. Vous avez marché toute seule. Eh bien, continuez à marcher toute seule. Ne vous appuyez pas sur les morts. Je ne m'appuie pas sur les morts, comme vous dites. Non, mais vous en aviez bien envie, si je vous avais laissé faire, grommela Jérémie, et voilà pourquoi vous êtes tombé sur moi. Vous ne pouvez pas oublier que je n'ai pas voulu vous laisser faire. Sans doute cela vous étonne que je tienne à ce qu'on rende justice au père d'Arthur, hein? Peu m'importe que vous me répondiez ou non, parce que je sais que cela vous étonne, et vous le savez aussi. Allons, je vais vous dire ce que c'est. Il est possible que j'aie le caractère un peu bizarre, mais enfin, je suis comme ça. Je n'entends pas laisser les gens faire uniquement à leur tête. Vous êtes une femme déterminée et une femme habile. Et lorsque vous avez résolu une chose, rien ne peut vous en détourner, personne ne sait cela mieux que moi. Rien ne peut m'en détourner, Jérémie, lorsque je l'ai justifié à mes propres yeux. Ajoutez cela. Justifié à vos propres yeux? J'ai dit que vous étiez la femme la plus déterminée qui soit au monde. Ou j'ai voulu le dire. Et si vous êtes déterminée à justifier un but quelconque que vous avez en vue, vous n'y manquerez pas, c'est tout simple. Je ne justifie pas l'autorité de ce livre, s'écria Madame Clennam avec une énergie sévère, et laissant tomber son bras sur la table avec force, autant que Madame Jérémie put en juger par le bruit. « Laissons ça là, » répondit tranquillement Jérémie. « Nous n'entamerons pas cette question pour le moment. Quoi qu'il en soit, vous mettez vos projets à exécution, et il faut que tout cède devant votre volonté. Or, moi, je ne veux pas céder devant votre volonté. Je vous ai été fidèle et utile, et je vous suis attaché. Mais je ne puis pas consentir, je ne veux pas consentir, et je n'ai jamais consenti, et je ne consentirai jamais à m'absorber dans votre individualité. Avalez tous les autres si cela vous plaît, et grand bien vous fasse. Mais moi, madame, je ne suis pas de caractère à me laisser avaler tout cru. » Peut-être était-ce là l'origine de l'entente qui existait entre eux. Si elle n'avait pas reconnu chez M. Flintwinch une si grande force de caractère, peut-être Madame Clennam n'aurait-elle pas daigné le prendre pour allié. « En voilà assez, et plus qu'assez sur ce sujet, » dit-elle d'un ton sombre. « À moins que vous ne tombiez encore sur moi, » répliqua l'obstiné Flintwinch, « car alors vous pourrez vous attendre à me voir recommencer. » Madame Jérémie rêva ensuite que son seigneur et maître avait commencé à se promener de long en large dans la chambre comme pour calmer sa colère, et qu'elle s'était enfuie. Mais Jérémie n'étant pas sorti, tandis qu'elle écoutait toute tremblante dans l'antichambre obscure, elle était remontée à tâtons, attirée par les fantômes et la curiosité. Puis elle avait en tremblant repris son poste d'observation derrière la porte. « Voulez-vous allumer la chandelle, Jérémie ?» disait Madame Clennam d'un air conciliant, destiné à faire rentrer la conversation dans son ton habituel. « Il est bientôt temps de prendre le thé. la petite Dorit doit venir et elle me trouverait dans l'obscurité. Monsieur Jérémie alluma la chandelle avec empressement et dit en la posant sur la table « Ah ça, qu'est-ce que vous voulez donc faire de la petite Dorit ? Est-ce qu'elle va venir toujours travailler ici, toujours prendre le thé ici ? La verra-t-on aller et venir comme elle le fait, toujours, toujours ? Comment pouvez-vous parler ainsi à une malheureuse paralytique comme moi ? Toujours ! Ne sommes-nous pas moissonnés tous comme l'herbe de la prairie ? Et n'ai-je pas été tranché déjà par la faux du temps depuis bien des années, depuis que je suis resté étendu ici, en attendant qu'on me transporte dans la grange du Seigneur ? Oui, oui, fort bien. Mais depuis que vous êtes étendu là, pas comme une morte toujours, il s'en faut de tout. Une foule d'enfants et de jeunes gens, une foule de femmes aux joues roses et d'hommes vigoureux, une foule de gens, en un mot, ont été fauchés et transportés dans la grange. Et vous voilà encore, comme vous voyez, pas trop changé après tout. Vous et moi, nous pouvons vivre encore longtemps. » En disant toujours, j'ai voulu dire, quoique je ne sois pas un esprit poétique, pendant tout le cours de notre existence. Jérémie donna cette explication avec beaucoup de sang-froid et attendit tranquillement la réponse. Tant que la petite Dorit sera sage et active, qu'elle aura besoin de la faible assistance que je puis lui donner, et qu'elle en sera digne, je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas, à moins de se retirer de son propre gré, de venir ici, aussi longtemps qu'il plaira au Seigneur de m'épargner. « Rien de plus ? » demanda Jérémie, se caressant le menton. « Que voulez-vous qu'il y ait de plus ? » « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus ? » s'écria Madame Clenham de son ton de surprise sévère. Madame Jérémie rêva ensuite que les deux interlocuteurs avaient continué à se regarder pendant quelques minutes, avec la chandelle entre eux, et d'une façon ou d'une autre, l'idée lui vint qu'ils se regardaient fixement. « Seriez-vous, par hasard, Madame Clenham ?» demanda alors le seigneur et maître de Madame Jérémie, en baissant la voix et en mettant dans ses paroles une expression que ne semblait pas suffisamment justifier une question si simple. « Où elle demeure ?»« Non. Tiendriez-vous beaucoup à le savoir ?» reprit M. Flintwinch, comme s'il eût pris son élan pour se précipiter sur sa maîtresse. « Si je désirais le savoir, je le saurais déjà. N'aurais-je pas pu le lui demander ?»« Alors, vous ne vous souciez pas de connaître son adresse ?»« Je ne m'en soucie pas. » M. Jérémie respira longuement et d'une façon significative, puis il continua en appuyant toujours sur les mots. « Car je le sais, moi, où elle demeure. Par hasard, bien entendu. » « Quelle que soit sa demeure, » dit Madame Clenham d'une voix dure et saccadée, séparant les mots aussi distinctement que si elle les lisait sur des morceaux de métal qu'elle aurait ramassés un à un, « elle m'en a fait un secret, et ce secret, je ne cherche pas à le pénétrer. » « Après tout, peut-être auriez-vous préféré ne pas savoir que je le connais, » ajouta Jérémie, qui fit des contorsions en parlant, comme si les paroles sortaient tout de travers de sa bouche. Flintwinch, dit sa maîtresse et associée, s'exprimant avec une soudaine énergie qui fit tressaillir Madame Jérémie, « Pourquoi me poussez-vous à bout ? S'il est vrai qu'il y ait quelque dédommagement en échange de ma longue réclusion dans ces étroites limites, non que je me plaigne des maux qui m'affligent, vous savez que je ne me plains jamais. S'il est vrai qu'il y ait quelque dédommagement pour moi du long exil que je subis dans cette chambre, à sentir que, s'il m'isole de tout plaisir, il m'épargne aussi la connaissance de certaines choses que je préfère ne pas connaître, vous devriez être le dernier à m'envier cette faible compensation. « Je ne vous l'envie pas, » répliqua Jérémie. « Alors, ne m'en parlez plus, ne m'en parlez plus. Que la petite Dorit garde son secret, et vous aussi. Laissez-la aller et venir sans commentaires et sans questions. Laissez-moi souffrir, mais laissez-moi aussi profiter de tous les soulagements que peut comporter ma position. Me trouvez-vous trop exigeante de vous demander que vous ne veniez pas me tourmenter comme un mauvais génie ? Je n'ai fait que vous adresser une question, voilà tout. Et j'y ai répondu, donc ne m'en parlez plus. » Alors on entendit sur le parquet le bruit du fauteuil que l'on faisait rouler et une main impatiente agita la sonnette de Madame Jérémie. Comme Madame Jérémie avait encore plus peur de son mari que du bruit mystérieux qu'elle entendait parfois dans la cuisine, elle s'éloigna aussi silencieusement et aussi vite que possible, redescendit l'escalier aussi rapidement qu'elle l'avait monté, reprit sa place devant la cheminée, releva de nouveau la jupe de sa robe et enfin se couvrit la tête de son tablier. Puis la sonnette résonna une fois, deux fois, trois fois et continua de s'agiter. Mais en dépit de cet appel importun, Madame Jérémie demeura immobile, la tête sous son tablier, cherchant à reprendre haleine. Enfin, un pas traînard se fit entendre dans l'escalier, conduisant au vestibule, et M. Jérémie descendit en grommelant et en appelant tout le long du chemin « Affrée, femme !» Comme Madame Jérémie continuait à se cacher dans son tablier, il arriva dans la cuisine, chandelier en main, s'approcha de sa femme en marchant de profil, enleva le tablier et la réveilla. « Oh, Jérémie !» s'écria-t-elle au sortir de son rêve. « Quelle peur tu m'as faite !»« Que diable fais-tu là? Voilà 50 fois qu'on te sonne !»« Oh, Jérémie, c'est que j'ai fait un rêve !» Se rappelant le dernier exploit somnambulesque de son épouse, M. Flintwinch approcha la chandelle de la tête de Mme Jérémie comme s'il avait quelque idée d'y mettre le feu pour illuminer la cuisine. « Ne sais-tu pas que c'est l'heure de lui servir son thé ? » demanda-t-il avec un méchant ricanement, en donnant un coup de pied à la chaise de Mme Jérémie. « Jérémie, quel thé ! Je ne sais pas ce que j'ai, mais je viens d'avoir une si terrible frayeur, Jérémie. Avant de commencer à rêver, que je crois que ça vient de là. « Fi donc, paresseuse !» cria M. Jérémie. « De quoi viens-tu me parler là ?»« Un bruit si étrange, Jérémie, et un si drôle de mouvement, ici, dans la cuisine, à cet endroit. » Jérémie souleva la chandelle et regarda le plafond noirci. Jérémie baissa la chandelle et regarda les pavés humides du parquet, puis, tournant sur lui-même, il regarda les murs salis et maculés. « Des rats, des chats, de l'eau, des gargouilles !» dit Jérémie. Madame Jérémie, à chacune de ses propositions, secoua la tête comme si ce n'était pas cela. « Non, Jérémie, ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Je l'ai déjà entendu en haut et une autre fois sur l'escalier, tandis que j'allais de sa chambre à la nôtre au milieu de la nuit. C'était quelque chose qui frôlait et tremblait derrière moi et qui me touchait presque. « Affrée, ma femme !» dit M. Flintwinch d'un air sinistre, après avoir avancé son nez tout près des lèvres de sa dame, comme pour s'assurer que l'haleine ne trahissait pas l'absorption de quelque liqueur alcoolique. « Si tu ne sers pas le thé en deux temps, ma vieille, tu vas sentir un frôlement et un attouchement qui t'enverront à l'autre bout de la cuisine. » Cette prédiction stimula le zèle de Mme Jérémie, qui se disposa au plus vite à monter chez Mme Clenham. Mais malgré tout, elle commença à avoir la conviction bien arrêtée que la sombre maison était ensorcelée. Désormais, elle n'y goûta plus un moment de tranquillité dès que le jour avait disparu. Elle ne monta ou ne redescendit plus l'escalier dans l'obscurité, sans se cacher la tête dans son tablier, de peur de voir quelque chose. Grâce à cette erreur fantastique et à ses rêves bizarres, Mme Jérémie retomba ce soir-là dans une situation d'esprit anormale dont nous serons peut-être longtemps à la voir sortir. De même que, dans la vague incertitude et le trouble de ses nouvelles expériences et de ses nouvelles sensations, tout lui semblait mystérieux, de même elle commença à devenir elle-même un mystère pour les autres, et de même que la maison, avec tout ce qu'elle renfermait, était inexplicable pour Mme Jérémie, de même cette dame devint inexplicable pour tout le monde dans la maison. Elle n'avait pas encore fini de préparer le thé de Mme Clenham lorsque retentit le léger coup de marteau qui précédait toujours les visites de la petite Dorit. Mme Jérémie regarda la petite Dorit qui ôtait son modeste chapeau dans le vestibule, puis son mari qui se caressait la mâchoire en contemplant la jeune fille en silence, persuadée que cette rencontre allait amener quelque éclat terrible, capable de lui faire perdre l'esprit de frayeur ou de les faire sauter tous les trois. Après le thé, il y eut un autre coup de marteau, annonçant Arthur. Madame Jérémie alla lui ouvrir, et le visiteur lui dit en entrant « Je suis content que ce soit vous, j'ai quelque chose à vous demander. » Madame Jérémie répondit immédiatement « Au nom du ciel, ne me demandez rien, Arthur, je passe la moitié de ma vie à rêver et l'autre moitié à trembler, j'en suis plus morte que vive. Ne me demandez rien. Je ne sais rien de rien, je ne puis pas distinguer une chose d'une autre. » Et elle prit immédiatement la fuite, ayant grand soin de ne plus l'approcher. Madame Jérémie, qui n'avait aucun goût pour la lecture et qui n'aurait pas vu assez clair pour travailler de l'aiguille dans la chambre de la malade, en supposant qu'elle eût envie de coudre, se tenait le soir dans cette quasi-obscurité dont elle était sortie un moment, lors de l'arrivée d'Arthur Clennam, et se livrait à une foule de méditations et de soupçons étranges concernant sa maîtresse, son mari et les bruits qu'on entendait dans la maison. Lorsque Madame Clennam faisait à haute voix ses lectures dévotes et féroces, Madame Jérémie sentait son regard attiré vers la porte, comme si elle se fût attendue, dans ces moments propices, à voir apparaître quelque sombre personnage évoqué par la pythonisse. Du reste, elle ne faisait ni ne disait jamais rien pour attirer sur elle l'attention des deux finaux d'une façon marquée, sauf dans quelques rares occasions, généralement vers l'heure tranquille qui précédait le coucher de sa maîtresse, lorsqu'elle s'élançait tout à coup de son coin obscur, le visage terrifié, et murmurant à l'oreille de M. Jérémie, occupé à lire le journal auprès de la petite table de Mme Clennam, « Là, Jérémie, écoute, d'où vient ce bruit ?» Alors le bruit, s'il y en avait jamais eu, ne se faisait plus entendre. Et Jérémie lui disait, en montrant les dents et en se tournant vers elle avec colère, comme s'il se lassait à la fin de ses paniques, « Affrée, ma vieille, laisse, ma chère, je vais t'en donner une dose, mais une dose. Tu ne feras donc jamais que rêver ?»